Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. En 3 épisodes, je vous replonge dans la dernière longue décennie que nous avons vécue depuis la fin de la présidence de Jacques Chirac, avec un grand témoin, François Hollande. Pour comprendre comment la France en est arrivée à ses tensions actuelles, dans ce 2e épisode, la France va découvrir un nouveau pouvoir.
Au cœur de l'histoire.
La France, au moment où je prends la responsabilité, elle va mal, mais elle veut espérer qu'elle va aller très vite mieux. Parce que toute alternance produit cette espérance.
Après une campagne de terrain de près de 4 ans, une victoire aux primaires de la gauche, puis à l'élection présidentielle, François Hollande en a fini avec le temps de la conquête. Commence pour lui le moment de l'exercice du pouvoir. Une journée marque cette transition, celle de l'investiture. Elle se déroule le 15 mai 2012. Sur Europe 1, c'était Bruce Toussaint qui présentait l'émission spéciale, tandis qu'un envoyé était sur place, sur les Champs-Élysées, sous une météo capricieuse.
Une ambiance assez chaude du côté des Champs-Élysées. Décrivez-nous un peu tout ça.
Alors, je ne qualifierais pas l'ambiance de chaude parce que je ne sais pas si...
parce que ça s'est refroidi.
Mais ça s'est nettement refroidi lié donc à cette averse qui est en train d'arroser tout le monde, le président de la République également. Mais on sent en revanche que beaucoup ici veulent vivre ce moment d'histoire. C'est-à-dire qu'on a quitté un peu précipitamment et un peu plus tôt que d'habitude le bureau pour assister, pour voir en réel cette image donc d'un président de la République remontant, comme la tradition le veut, les Champs-Élysées.
Cette première sortie, qui, c'est vrai, est attendue parce que symbolique, puis c'était une alternance, ça faisait 10 ans que la gauche n'était pas revenue aux responsabilités. Moi-même, j'étais le 2e président de gauche de la 5e République, après François Mitterrand. Bon, donc c'était une journée importante qui appelait une mobilisation populaire. Il avait fait beau jusqu'à à peu près 10h30, 11h. Je rentre à l'Élysée, il fait encore beau, et quand je raccompagne même trop brièvement Nicolas Sarkozy, et que je prends possession du lieu et que je vais me faire remettre les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur pour marquer mon entrée dans la responsabilité présidentielle, le ciel s'est déjà obscurci et chargé. Et quand je monte dans la voiture, qui est une voiture donc faite pour l'occasion, c'est-à-dire une voiture décapotable et où je me tiens debout, c'est pas de la pluie que je reçois. Au début, c'est un crachin. Ensuite, c'est une pluie battante, et à la fin, c'est de la grêle que je reçois. Et je suis trempé, et je ne dois rien montrer de ce qui m'arrive, et qui est pas forcément inouï, mais qui est assez extravagant. C'est-à-dire au moment où vous êtes au mois de mai, dans l'espérance d'une journée ensoleillée et joyeuse, vous vous retrouvez sous la grêle. Alors certains, bien sûr, je le savais en remontant les Champs-Élysées, je connais trop les journalistes et les commentateurs pour dire... Voilà, ça commence sous l'orage et sous la pluie. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ce que c'est pas le signe dans lequel ce quinquennat va s'organiser. Et puis après, je vais, après avoir été ainsi rincé, je me rends vers un aéroport pour prendre un avion pour Berlin parce que j'ai convenu avec Angela Merkel que c'était la première visite que je devais faire. Je monte dans l'avion, nous décollons. Nous avons déjà un peu de retard compte tenu des cérémonies et l'orage touche l'avion. Les étincelles surgissent, je dis au pilote de continuer, il me dit, vous savez, vous pouvez tout décider dans notre pays, sauf de savoir si l'avion doit continuer ou doit rentrer, nous allons rentrer. Et donc là aussi, la foudre tombe sur l'avion du président, qu'est-ce que ce quinquennat prépare? Et puis après, j'ai trouvé que c'était un beau symbole, pas simplement l'averse, l'adversité. Être capable de résister à toutes les épreuves, de montrer la force que l'on doit tirer de toutes les épreuves pour aller encore plus loin et pour être comme un bloc, comme un roc face à tout ce qui peut se produire. C'est pour ça que j'ai pris la pluie après avec plaisir. Et venez la pluie, rien ne peut nous atteindre. Et rien, d'une certaine façon, ne m'a atteint parce que j'ai voulu à chaque fois montrer l'exemple.
Commence alors la véritable politique. François Hollande va bien se rendre en Allemagne et discuter avec Angela Merkel. Ces discussions vont rythmer le quinquennat et marquer sa politique économique. Voilà comment Europe 1 présente cette relation étroite entre les deux dirigeants et les résultats qui sont obtenus en janvier 2013.
Ce qui n'est pas facile, c'est de vous convaincre. Mais entre nous, le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité. Moi, je constate les faits, ce qui a été obtenu. Le mécanisme européen de stabilité, le pacte budgétaire, l'union bancaire dont nous avons fixé les principes. Écoutez, franchement, jugez les résultats et vous verrez que le courant passe.
Et ça va tellement bien qu'il se tutoie depuis hier soir. C'est Angela qui l'a suggéré à François.
Au-delà des clins d'œil à la relation personnelle avec Angela Merkel, c'est la valeur de l'engagement européen qui est posée dès l'automne 2012. Car pendant sa campagne, François Hollande s'était engagé à renégocier les traités européens. Ce qu'il n'a pas fait, et on le lui reproche. Il s'en explique aujourd'hui en valorisant son choix d'une autre stratégie. Une stratégie coûteuse, puisqu'elle va entraîner de lourdes hausses d'impôts, qu'il tente à minimiser.
Il y avait eu un traité budgétaire européen qui avait été accepté, signé par la France dans le cadre de l'Union européenne. Et on sait que l'influence avait joué Angela Merkel pour la préparation et la signature de ce traité. Ce traité était particulièrement contraignant puisqu'il nous obligeait à aller vers les 3% très rapidement, 3% de déficit par rapport à la richesse nationale. Donc on était à 5,2, donc c'était un effort considérable qu'il fallait faire. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Non pas, c'est vrai, nous n'avons pas réécrit le traité, nous l'avons réinterprété le traité. Alors c'est ce qui a peut-être créé cette critique et cette contestation, en disant, bah, vous voyez, le traité existe toujours, vous dites que vous ne l'avez pas appliqué de manière rigoureuse, mais il est là. Mais c'est quand même l'objectif que je m'étais fixé, c'est d'éviter que la France soit obligée de prendre une politique d'austérité qu'il aurait mise par terre, à tous les sens du terme. Mais c'est vrai, quand on regarde la lettre, c'est le traité n'a pas été modifié, il a même été voté ensuite par le Parlement français. Mais l'esprit, on a été profondément modifié. Puisque les 3% qu'on devait atteindre en 2013, on ne les a atteints qu'en 2017. C'est-à-dire que l'Allemagne, et je dois quand même rendre justice à Angela Merkel, l'Allemagne a compris qu'il nous fallait du temps, a compris que nous avions double effort à faire de compétitivité de nos entreprises, qui est obligé à les soutenir, ce que j'ai fait avec le CICE et d'autres mesures, et aussi de réduire notre déficit budgétaire. Et de faire les deux en même temps, c'était compliqué, c'était peut-être même impossible. C'est pour ça que nous avons réussi à obtenir du temps. Et moi, je m'enorgueille d'une chose, même si ça peut paraître quelquefois difficile à entendre pour les Français. Il n'y a pas eu de politique d'austérité en France sous mon quinquennat. Il n'y a pas eu une politique de relance, c'est vrai, mais il n'y a pas eu une politique d'austérité. Il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat pendant mon quinquennat. Mais il y a eu des prélèvements significatifs qui se sont ajoutés à ceux qui avaient décidé Nicolas Sarkozy et François Fillon quand ils étaient aux responsabilités. Mais, c'est ça le point important, ça a été sur les plus favorisés que nous avons fait l'effort. Et c'est là que, peut-être, il y a souvent un malentendu. Les plus favorisés, c'est bien sûr les plus riches. Mais c'est aussi ce qu'on appelle les classes moyennes supérieures. Et je leur ai beaucoup demandé aux classes moyennes supérieures. J'en suis tout à fait conscient. On a limité le quotient familial, on a créé une tranche à 45%. Donc je sais ce que je leur ai demandé, qui étaient souvent, d'ailleurs, des électeurs, mes électeurs. Mais c'était pour ne pas en demander à ceux qui étaient les plus fragiles. Et je revendique cette politique. Et on m'a fait souvent le reproche de la refiscalisation des heures supplémentaires, hein, puisqu'il y avait eu cette politique par Nicolas Sarkozy. Et en fait, ça a touché une partie de mes électeurs. Et je considérais que pour l'emploi, il était très important qu'on favorise l'embauche plutôt que les heures supplémentaires.
Mais les décisions et les choix politiques ne sont pas les seuls à faire la une des journaux en ce début de quinquennat. Il y a aussi la chronique mondaine et la vie privée du président qui parasitent la lecture de son action. Affaire du baiser du 6 mai, tweet de Valérie Trierweiler à l'été et à l'automne, polémique sur les coussins de Brégançon, affaire du scooter... Bref, pour François Hollande, ce parasitage fait partie maintenant de la vie politique.
Les temps ont considérablement changé par rapport aux présidences qui ont pu avoir lieu jusqu'à Jacques Chirac. Je veux dire, après Jacques Chirac, on est rentré dans le temps des réseaux sociaux, des chaînes d'information, de la presse people, et ce qui était impensable hier, c'est-à-dire un dévoilement de vie privée, est devenu quasiment affaire courante depuis une dizaine d'années, et pour tous les présidents successifs. Et je ne l'avais pas forcément mesuré à ce point, parce que c'est une forme d'intrusion, une forme d'observation, de fausses nouvelles, de polémiques permanentes. Vous parlez des coussins de Brégançon. Je parle pas de la piscine de Brégançon, hein. Je parle des coussins. Où ma compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, a juste raison, visite le lieu, il n'avait pas été occupé depuis des années, et sur les meubles de jardin, dit bah, peut-être qu'il faudrait changer les coussins. Immédiatement que la décision est prise et que l'exécution est faite, on dit mais la formation est connue, mais comment se fait-il de l'argent? C'était quelques centaines d'euros, mais c'était un signe. C'est pas ce que ça révélait comme dépense, c'était rien. Mais ce que ça révélait comme intérêt, c'est-à-dire d'observation de tout ce que va être la vie privée. Ensuite, je n'ai pas été le premier président à me séparer de ma conjointe pendant l'exercice du pouvoir. Nicolas Sarkozy était également divorcé. Ça peut arriver dans toute vie de couple, même au niveau le plus important. Et c'est après une dimension tout à fait considérable. Et comment faire pour y échapper? C'est très difficile. Je vois même pour les fausses rumeurs qui courent sur Emmanuel Macron en permanente sur cette vie privée, qu'il est obligé à chaque fois de corriger, de démentir et de dénoncer. Il a raison sur les fausses nouvelles. Mais voilà, ça rend l'exercice du pouvoir, et peut-être plus particulièrement en France, relativement fragile, en tout cas vulnérable. Alors, il y a un contre-exemple. Aux États-Unis, Donald Trump se moque parfaitement de tout ce qui peut être dit. Il en fait même un jeu de provocation. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce type de manière.
La chronique de la vie privée n'est pas le seul parasitage. Deux scandales de nature très différente le mettent en difficulté. Il y a l'affaire Cahuzac, ministre de l'économie et des finances, dont on découvre qu'il aurait un compte en Suisse en décembre 2012 et qui le contraint à sortir du gouvernement le 19 mars 2013. Puis, en avril 2014, son conseiller Aquilino Morel est poussé à la démission pour avoir fait cirer ses chaussures à l'Élysée.
Un collaborateur qui commet une erreur, bon, on s'en sépare, c'était le cas d'Aquilino Morel, c'est quelquefois injuste, mais ça c'est ainsi. Il y avait une règle, chaque fois qu'une enquête est ouverte, le collaborateur doit être écarté. Puis il y avait un acte, disons, d'une forme de d'élégance qui était en fait une inélégance au sujet de ses chaussures, donc ça avait pu amuser ou en tout cas un peu affecter l'image que je voulais donner de la présidence de la République. Non, l'affaire Cahuzac, c'était beaucoup plus grave, parce que là, ça touchait pas simplement un comportement personnel, ça touchait à une éthique qui blessait le gouvernement, le président et la gauche. Le ministre du budget qui a un compte à l'étranger et qui en plus, devant la représentation nationale, le nie. Et puis ça a duré des semaines, parce que comme on lui faisait confiance et qu'il proclamait son innocence, on attendait qu'il puisse y avoir la confirmation de cette innocence, qui n'est pas venue, au contraire. Donc là, je considérais que ça froissait, ça blessait, ça éclaboussait ce que moi je voulais justement montrer comme exemplarité. Alors j'en ai tiré aussi une leçon, parce que il faut que les Français comprennent bien. Quand j'ai dit République exemplaire, ça ne veut pas dire que ceux qui la servent vont être d'un seul coup exemplaires ou parfaits. Ça veut dire que ceux qui la servent et qui se comportent de manière irrespectueuse, irrégulière et a fortiori illégale, doivent être sanctionnés et tout doit être fait pour que la transparence puisse être rétablie. C'est pour ça que j'ai créé la Haute Autorité de la Transparence, pour être sûr que tous ceux qui servent la République ne sont pas enrichis à ses dépens.
Le grand combat de ce quinquennat, celui qui a déchiré la France, est le mariage pour tous. Un projet de loi qui vise à permettre le mariage de deux personnes du même sexe. Il est présenté par la ministre de la Justice, garde des Sceaux, devant l'Assemblée nationale. C'est Christiane Taubira. Et vous allez l'entendre, l'émotion est déjà forte dans l'hémicycle. Elle le sera davantage encore dans la rue, avec une mobilisation forte des religions et de la droite.
Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel ? Alors, s'il n'enlève rien, nous allons oser poser des mots sur des sentiments et sur des comportements. Nous allons oser parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère dans le code civil et dans le livret de famille.
Je savais qu'il y avait des résistances par rapport à cette réforme que je voulais, c'est-à-dire l'introduction du mariage pour tous. Donc je savais qu'on aurait une mobilisation d'un certain nombre de milieux, et notamment des milieux traditionnels, mais de la hiérarchie catholique, pas simplement de la hiérarchie catholique, des religions d'une manière générale. Mais je n'avais pas pensé que ça prendrait cette forme de mobilisation, de manifestation très imposante. On parle en ce moment des gilets jaunes, mais enfin, c'est très peu de monde par rapport aux dizaines de milliers qui ont manifesté plusieurs samedis ou dimanches de suite dans les rues de Paris et dans nombreuses rues de ville pour dire leur opposition au mariage. Ça, je pense que ça a été aussi une découverte qu'il y avait quand même une partie de la France qui résistait par rapport à cette idée de progrès, à cette idée d'égalité. Mais c'est peut-être aussi ça, la fierté qu'on peut avoir et l'honneur dans une démocratie, c'est d'assumer une position, c'est de défendre une conviction, c'est d'aller jusqu'au bout d'une réforme quand on sait qu'en plus elle est appuyée majoritairement par le pays, et puis ensuite d'en payer le prix, y compris en termes d'impopularité, mais quelques années plus tard, de dire j'avais raison. Et nous pouvons aujourd'hui dire que la France a été un des premiers pays, pas le premier, hein, à adopter le mariage. On m'a dit, mais alors pourquoi vous voulez le mariage? Vous l'avez pas vous-même, si je puis dire, pratiqué le mariage. Mais je dis, mais le mariage, c'est justement ce qui fait toute sa valeur. C'est un choix, c'est une liberté. Ce qui compte, c'est pas forcément de se marier, c'est de pouvoir se marier. Et c'est cette idée de pouvoir se marier qui peut-être est plus forte encore que l'idée de se marier ou de ne pas se marier.
Sans doute, le mariage pour tous est-il la réforme sociétale la plus importante de la présidence Hollande. Mais très tôt, la politique extérieure va occuper une place essentielle dans l'activité du chef de l'État. Le 11 janvier 2013, ce dernier a pris la décision d'intervenir dans le conflit malien et de bombarder une colonne de djihadistes en route vers Bamako. Quelques mois plus tard, à Bamako même, le 19 septembre 2013, le président prononce le discours de la victoire.
Nous avons gagné cette guerre! Nous avons chassé les terroristes. Nous avons sécurisé le Nord. C'est une victoire, une grande victoire pour le Mali que nous fêtons aujourd'hui, ensemble.
Chaque chef d'État est finalement happé par l'extérieur. D'abord parce qu'il y a de nombreuses réunions, G7, G20, Conseil européen, rencontres avec les chefs d'État... les plus importants, et ensuite parce qu'il y a une actualité qui quelquefois nous inspire, et même nous inspire sur un certain nombre de questions, et notamment de faire une intervention au nom de la France pour empêcher une intervention autre, notamment terroriste. Alors, c'est ce qui explique que dans l'agenda du président, la part consacrée à l'international prend une place de plus en plus importante et finit même par laisser penser qu'il y a une forme d'indifférence à l'égard des préoccupations du pays. J'ai fait très attention à ça. Mais aujourd'hui, le président de la République, enfin Emmanuel Macron, comme je l'ai fait avant, se déplace de plus en plus souvent parce que c'est nécessaire de le faire, parce que il y a une diplomatie à assurer. Deuxième explication, c'est que quand je prends la décision d'engager nos forces, parler de ce qui s'est passé pour le Mali, nous sommes le 11 janvier. Le 11 janvier, je réunis un conseil de défense et je dis, voilà, nous intervenons pour que les terroristes puissent être chassés et puisse être repoussé. Je sais que le soir même, mon ordre va être mis en œuvre et que, au plus tard, au petit matin, il y aura des avions ou des hélicoptères qui pourront agir sur les colonnes des véhicules terroristes. En politique intérieure, quand vous prenez une décision, au moment où vous prenez cette décision et au moment où elle va s'appliquer, c'est cool, quelquefois, 3 mois, 6 mois, 1 an, même davantage. Et lorsque ça arrive, y compris dans ses aspects bénéfiques, on a déjà oublié les contestations qui avaient eu lieu au moment de la première décision de son annonce. Donc c'est pour ça que la tentation, là, c'est vrai, peut être d'aller de plus en plus sur la politique extérieure qui vous donne une gratification, une valorisation et puis une traduction sur le terrain. Alors que la politique intérieure, y compris dans l'aspect sécuritaire, quand on fait voter des lois pour nous protéger contre le terrorisme, tant qu'elles se mettent en œuvre, il peut y avoir d'autres attentats et on va nous faire le reproche de ne pas les avoir prises plus tôt. Donc il y a cette différence à la fois d'intensité, différence en termes de mobilisation en temps et différence en termes d'effets constatés par l'opinion.
Un autre théâtre apparaît, la Syrie et l'Irak. Le désir de transparence de François Hollande dans ses actions extérieures l'a conduit à signaler les décisions d'exécution ciblées qu'il a pu prendre. Plusieurs livres, dont le sien, en font mention. Selon les auteurs, entre 4 et 8 personnes de nationalité française auraient été directement abattues sur son ordre. Si bien que face à l'hypothèse du retour des djihadistes français depuis la fin de l'État islamique, certains hommes politiques, comme le député républicain Pierre-Henri Dumont, n'ont pas hésité à dire que le président aurait dû en tuer davantage. François Hollande, en entendant cela aujourd'hui, est très réservé. Il s'abrite en partie derrière les décisions du commandement militaire et les opérations de guerre et n'insiste pas trop sur les exécutions ciblées, comme s'il avait tiré les leçons de ses confidences passées.
Quand on parle des actions en Syrie ou en Irak, où il y a eu des bombardements, où on savait qu'il y avait des terroristes, ça fait partie des opérations de guerre, donc des opérations qu'il faut absolument mener sans qu'on sache exactement l'identité des personnes, des individus qui sont là, mais dont on sait très bien qu'ils relèvent de Daesh. Bon, là c'est une opération militaire qui s'exécute sans que le président de la République ait à se prendre. Heureusement, parce que on en a fait beaucoup, des bombardements en Syrie et en Irak, ou lorsque il y a eu la reconquête de Mossoul, on avait une batterie d'artilleurs qui appuyait les forces irakiennes pour la reconquête. Donc là, il y a eu sans doute des Français qui sont morts, qui étaient des djihadistes et qui étaient dans l'armée de Daesh. Et donc, comme on combattait l'armée de Daesh, ils ont sûrement été tués. On apprend d'ailleurs là récemment que l'un des frères qui est directement lié à des attentats à Paris, Klein, a été tué dans une opération. Mais c'est pas le président qui a ciblé. On sait que ces noms-là existent, ces personnes-là doivent être neutralisées, mais enfin, on ne sait pas comment. C'est autre chose quand on sait, là c'est un ordre présidentiel, quand on sait pertinemment qu'il y a un terroriste particulièrement dangereux qui a été isolé, identifié, et là, il est demandé une intervention, mais c'est parce que là, on veut cibler sans qu'on soit sûr toujours que l'on va atteindre l'objectif. Mais donc c'est pour ça que on peut pas faire des confusions ou faire des extensions. Et là, il y a des personnes qui maintenant sont prisonnières et qui devront être jugées ou sur place ou en France. Moi, j'ai toujours établi cette distinction. Ceux qui sont partis, des nationaux français, qui sont partis sur les terrains irakiens et syriens, en Irak, doivent être jugés par les Irakiens. C'est un pays indépendant, c'est une justice. Ils ont commis des actes d'une horreur telle sur le pays en question et sur sa population qu'ils relèvent de la justice irakienne. C'est un peu différent en Syrie quand ils sont prisonniers, et à juste raison, retenus par les Kurdes syriens. C'est pas un État, les Kurdes syriens. Eux-mêmes sont menacés par une éventuelle intervention des Turcs. On ne sait pas ce que pourraient devenir ces djihadistes. Et là, il faudra faire attention, parce que s'ils ne peuvent pas être jugés en Syrie, il faut qu'on puisse s'assurer qu'ils ne se disperseront pas, et donc il faut qu'ils puissent être à ce moment-là jugés en France. Les femmes qui sont françaises et qui demandent à revenir, qui n'ont pas commis d'actes pénalement condamnables dans le pays où elles sont, à ce moment-là, reviendront.
La guerre n'est pas seulement projetée au loin. Elle devient une réalité très présente sur le territoire national. À partir de janvier 2015, avec les attentats en région parisienne, puis lors de la soirée du 13 novembre qui voit une série de massacres perpétrés sur plusieurs terrasses de café et dans une salle de spectacle au Bataclan, tout change. Au lendemain de cette effusion de sang, François Hollande prononce un discours devant le Congrès réuni à Versailles.
La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionné par l'horreur. Il n'en est rien. Et la République française a surmonté bien d'autres épreuves. Et elle est toujours là, bien vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l'histoire. Il en sera de même cette fois-ci encore.
Donc l'année 2015, il y a deux série d'attentats. Il y a eu d'autres tentatives, il y a hélas des morts entre ces deux périodes, janvier-novembre. En janvier, donc assassinat de journaliste Charlie, de policier et d'hypercacheur, avec un peuple, le peuple français, qui répond à la demande que je lui adresse en manifestant partout et massivement. On pense qu'il y a eu près de 5 millions de personnes qui ont été dans les rues des villes. Et il y a cette manifestation exceptionnelle, faut quand même bien le reconnaître, et sûrement qui ne pouvait se passer qu'en France, de chefs d'État et de gouvernement du monde entier qui viennent à Paris pour défiler, dans des conditions de sécurité qui étaient tout sauf réunies. On a dans cette manifestation des chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'État qui ne se parlent plus, des chefs de gouvernement qui sont de sensibilités très différentes, et on a même le premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Bon, c'est-à-dire quelle plus belle manifestation à tous les sens du terme on pouvait imaginer pour répondre aux terroristes. 13 novembre, une intensité tragique, Stade de France, les terrasses, le Bataclan, un nombre de morts comme on n'en avait jamais connu, par des actes terroristes. Comment réagir? Une nouvelle manifestation? Je ne la sens pas, parce qu'il y a une sidération qui a saisi le pays, et puis parce qu'il y a une interrogation sur ce qui peut se produire. Nous sommes en guerre. Comment mène-t-on la guerre? Quelle va être la réponse? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de réplique? Donc je dois trouver une façon de rétablir l'unité nationale autrement que par une grande manifestation. Donc c'est l'idée de convoquer le Congrès, c'est-à-dire la réunion du Parlement à Versailles, Sénat et Assemblée nationale. Je dois trouver des mots, je dois trouver des mesures, je dois trouver des décisions qui font que, même si je ne suis pas forcément d'accord sur toutes, j'en prends du côté de l'opposition comme du côté de la majorité, pour que on marque bien l'unité nationale. Parmi ces mesures, il y aura l'annonce de l'élargissement de la déchéance de nationalité qui, au moment où je l'exprime, soulève aucune opposition et même provoque plutôt une adhésion. Je me rappelle encore de tous ces députés, de tous ces sénateurs qui se sont levés quand j'ai terminé mon discours, parce que c'était une façon de montrer ce sursaut. C'était le rôle d'ailleurs des représentants. C'est très important au moment où on s'interroge sur ce que c'est que la démocratie. Bah, la démocratie, ça permet à des élus de la République de montrer par moment leur unité pour que le peuple puisse se sentir lui-même investi d'une mission. Donc, j'ai pensé que cette réunion à Versailles avait au moins cet avantage qui était de retrouver, de ressouder le peuple français et de lui montrer qu'on était non seulement dans le sursaut, mais qu'on était plus fort encore. Et moi, ce que je regarde comme, là aussi, fierté de ce quinquennat, et c'est une fierté qui ne m'est pas personnelle, c'est une fierté que j'ai pour le peuple français, c'est qu'il a été, face à ce qui était quand même une épreuve comme il ne l'avait pas connue depuis des décennies, à la hauteur. C'est-à-dire, il ne s'est pas abaissé à se diviser, à se fracturer, à se méfier de lui-même. Il a été grand, le peuple français. C'est pour ça que, quand on s'interroge quelquefois sur notre destin, sur notre avenir collectif, sur les risques de déclin, il y a des moments où, quand on est face aux épreuves, on est un grand peuple dans le monde.
La France est emportée par l'actualité. Le président peut-il encore recoudre le lien entre les Français? Les difficultés économiques, le terrorisme, peuvent-ils être surmontés? Autant de questions qui jalonnent la présidence de notre grand témoin François Hollande, et vous entendrez ses réponses dans le troisième et dernier épisode.